êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « La nature du mariage ». Il existe dans le monde une grande variété de coutumes et d'attitudes en ce qui concerne le mariage et la vie familiale. Mais le mariage lui-même existe partout. Il a été au cours de l'histoire et partout au monde un élément de base de toute société humaine. Il ne faut pas oublier pourtant que le mariage n'est pas une invention des cultures humaines, mais de Dieu lui-même. Jésus, en effet, a enseigné en Matthieu 19, versets 4 à 6, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » C'est donc Dieu qui a créé et ordonné le mariage. C'est lui qui sait comment le mariage doit fonctionner. Nos mariages doivent se conformer à sa volonté. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus a cité un verset dans le livre de Genèse qui paraît textuellement quatre fois dans la Bible. Genèse 2, verset 24, Matthieu 19, verset 5, Marc 10, verset 7 et 8 et Éphésiens 5, verset 31. Des vérités que Dieu prend la peine de nous dire à quatre reprises dans les mêmes mots doivent avoir une importance particulière. Nous voulons en dégager trois principes qui constituent le point de départ de notre discussion du mariage. Premièrement, l'homme doit quitter son père et sa mère. Cela suppose certainement que l'homme doit être d'un âge mûr pour se marier. Il doit être plus ou moins indépendant, capable de se soutenir lui-même et sa femme, prêt à assumer des responsabilités dans la vie. S'il ne l'est pas, comment pourra-t-il faire face aux difficultés à venir? Comment pourra-t-il élever ses enfants? Il doit avoir une certaine maturité sur le plan intellectuel, moral et social, et non seulement sur le plan physique. Quitter son père et sa mère suppose également qu'il y a une action publique et légale par laquelle tous peuvent reconnaître la transition qui a lieu. Dans certaines cultures, il y a une procession devant tout le village, une procession où le nouveau couple est conduit jusqu'à la demeure qu'elle occupera. À partir de ce jour, tout le monde sait qu'ils sont mariés l'un à l'autre. Mais pourquoi est-il précisé que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et non pas la femme qui quitte son père et sa mère? Après tout, dans beaucoup de pays, ce sont les femmes qui quittent chez elles pour vivre dans la cour familiale de leur mari. Peut-être que la Bible insiste sur l'idée que l'homme quitte ses parents, parce que cette nécessité peut être oubliée. En effet, il revient souvent habiter dans la cour des parents. Mais le mari et aussi ses parents doivent comprendre qu'il y a un changement fondamental dans leur relation à partir du jour où le fils se marie. Un nouveau foyer se forme. Une famille distincte se crée. Tout comme un bébé ne peut pas grandir et se développer si le cordon ombilical n'est pas coupé, de même le nouveau couple ne peut jamais s'épanouir s'il n'y a pas une douce rupture avec les parents. Bien sûr, il doit toujours y avoir beaucoup de respect pour les parents. Un amour profond pour ceux qui nous ont mis au monde, pour ceux qui ont tout fait pour nous depuis notre naissance et qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour nous élever et nous préparer pour la vie. Nous aurons toujours des devoirs envers nos parents, une dette que nous ne finissons jamais de payer. Néanmoins, quand je me marie, la relation que j'ai avec ma femme doit remplacer la relation avec mes parents, comme étant la plus importante dans ma vie. Le lien avec ma femme devient plus fort que le lien avec mon père et ma mère. Dans un sens réel, je dois quitter mon père et ma mère. Deuxièmement, l'homme doit s'attacher à sa femme. La colle qui nous unit entre époux a deux ingrédients, l'amour fidèle et un engagement solennel. Dieu veut que le mari et la femme soient le plus proches possible l'un de l'autre, si proches que rien ne peut s'interposer pour les séparer. Votre femme peut être votre meilleure amie. Vous devez vous sentir plus proche d'elle que de toute autre chose ou toute autre personne, y compris les amis, les visiteurs, les parents et même vos enfants. Vous l'aimez comme vous-même. En plus, en vous mariant, vous avez fait une promesse sacrée de lui rester fidèle. Étant attaché sur le plan de l'émotion et de la volonté, on cherche à éviter les longues séparations sur le plan physique. L'attachement doit être soigneusement entretenu. Troisièmement, la Bible nous dit que les deux deviendront une seule chair. L'expression « devenir une seule chair » comporte l'idée de rapports sexuels qui sont réservés uniquement pour le mariage. Entre mari et femme, ces rapports sont purs et saints. Si ce n'est pas dans le mariage, c'est la débauche ou l'adultère, et cela souille. Hébreux 13, verset 4 dit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » La beauté et le plaisir des rapports sexuels sont pour que le mari et la femme s'expriment l'un à l'autre leur amour exclusif. Voici la volonté de Dieu. Mais quand on parle de devenir une seule chair, il s'agit d'une union qui n'est pas seulement sur le plan physique. Les deux personnes formeront désormais une unité. Elles partageront tout, non seulement leur corps, mais les biens, les sentiments, les pensées, les joies, les souffrances, les objectifs et les succès. Elles auront une seule vie. Ce qui est bien pour l'un est bien pour l'autre. Il faut donc quitter, c'est-à-dire faire le mariage. Il faut s'attacher, c'est-à-dire s'aimer mutuellement. Il faut devenir une seule chair, c'est-à-dire s'unir sexuellement. C'est comme les trois pieds d'un tabouret. Il faut tous les trois pour un mariage réussi. Et les enfants? Notre texte dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Vous remarquerez que dans ce passage classique sur le mariage, Dieu n'a pas mentionné les enfants. Mais le mariage est l'union de l'homme et de la femme, qu'ils aient des enfants ou pas. Revenons à présent à notre texte en Matthieu 19 pour considérer ce qui l'entoure. Commençons au verset 3. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. » Matthieu 19, versets 3 à 12. Les pharisiens ont demandé à Jésus si l'on pouvait divorcer d'avec sa femme pour n'importe quelle cause. En effet, certains maîtres juifs du temps de Jésus enseignaient qu'on pouvait répudier sa femme pour n'importe quelle raison, même si, par exemple, la femme avait gâté un repas, ou que l'homme avait vu une autre femme plus jolie qu'elle. Mais Jésus dit que l'on ne doit pas divorcer, sauf pour une seule cause, si son conjoint a été sexuellement infidèle, c'est-à-dire a eu des relations sexuelles avec une autre personne. Selon les paroles de Jésus, si je n'arrive pas à m'entendre avec ma femme et que je la renvoie, et puis, même des années plus tard, j'en trouve une autre et je me marie avec elle, je commets de l'adultère contre la première femme. Pour nous rappeler la gravité du crime d'adultère aux yeux de Dieu, on peut signaler que sous la loi que Dieu avait donnée aux Israélites, ceux qui commettaient l'adultère étaient tués à coups de pierre. Vous avez peut-être remarqué que même les disciples de Jésus avaient du mal à accepter l'enseignement du Seigneur sur ce point. Mais Jésus était catégorique. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage est donc permanent. Dieu n'admet pas un mariage probatoire ou expérimental. On ne peut pas être à demi marié. Il n'est pas question de cohabiter d'abord avec sa fiancée pour voir si les parents l'accepteront, si l'on est compatible, si elle peut faire des enfants, etc. Quand on se marie, c'est pour du bon. On ne décide pas plus tard que l'on préfère être célibataire ou que l'on veut changer de partenaire. Pour conclure, voyons trois idées qui vont de pair avec la permanence du mariage selon Dieu. D'abord, quand ma femme et moi comprenons que le mariage est pour toute notre vie, cela fait de notre foyer non pas une prison, mais un refuge de sécurité. Nous vivons dans un monde où tout change et tout passe. Rien n'est stable. La société où l'on travaille peut faire faillite ou nous renvoyer. Une maison peut tomber. Une plantation peut brûler. Certes, Dieu est le seul refuge ultime. Mais quand deux époux comprennent la vraie nature du mariage, ils sont l'un pour l'autre une source constante d'amour, de soutien et de sécurité. Deuxièmement, la permanence du mariage m'enseigne que je dois très bien entretenir cette relation. Elle vaut beaucoup de temps et d'efforts. Elle doit durer. Il faut donc communiquer avec ma femme. Il faut tout faire pour résoudre nos problèmes dans le foyer. Le manque de cet engagement inconditionnel est la raison pour laquelle le concubinage finit trop souvent par la déception et beaucoup de mariages se terminent par le divorce. Quand on considère qu'on est en train de s'étudier, on n'a pas la même motivation pour résoudre les conflits et tolérer les défauts l'un de l'autre. Enfin, il faut reconnaître qu'en travaillant pour le bonheur de son mari ou sa femme, la personne à qui on est lié pour le reste de son temps sur la terre, on travaille pour son propre bonheur.
Ses flots inondent tous nos maux. Lumière sainte qui m'éclaire, devant toi pâlit mon flambeau. Que l'astre solaire, tu perces même le rideau qui l'efface.